On reçoit aujourd'hui Cyril Herpès, chercheur à l'École des hautes études en santé publique, et Luc Aquilina, enseignant à l'Université de Rennes et chercheur au laboratoire de géosciences. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du micro.
Vous ferez mercredi prochain à l'Espace des Sciences une conférence avec Estelle Borès sur le sujet « Notre santé en péril face au climat ». On va commencer par une question toute simple, mais vu le thème de cette conférence, c'est quels sont ces dangers qui existent pour notre santé face au climat ? Est-ce qu'on pourrait en avoir une concrète ? Est-ce que quelqu'un pourrait les définir ?
Alors, je vais peut-être commencer.
Alors rapprochez-vous bien du micro, qu'on vous entende bien, le sujet est important.
Alors, donc, par santé, on va penser évidemment à la santé humaine, et ça je vais laisser Cyril répondre parce que c'est vraiment son domaine, mais on peut aussi penser à la santé des écosystèmes. Donc, un des impacts du changement climatique va être sur le fonctionnement des écosystèmes, et en particulier dans les rivières, où on peut avoir à la fois pendant l'été des effets d'assèchement. On l'a vu, ça a été très marquant l'été dernier. Ce qui nous est arrivé l'été dernier, c'est grosso modo ce qui nous attend à l'horizon d'ici une trentaine d'années, on va dire tous les 2-3 ans. Au-delà d'une trentaine d'années, pratiquement une année sur deux. Donc c'est quelque chose qui vient vers nous très vite. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus d'eau dans les rivières, on a une rétractation des réseaux, et on n'a également plus assez d'oxygène dans les rivières. Donc on perd une partie des milieux. À l'inverse, pendant l'hiver, notamment dans le nord de la France, mais pas que, on risque d'avoir davantage d'inondations, des précipitations plus importantes, donc aussi une déstabilisation des milieux. Donc ça, c'est un des aspects localement qu'on va avoir. Et globalement, si on déstabilise l'écosystème, on déstabilise aussi toutes les protections qu'on peut avoir.
Et pour ce qui est de la santé humaine, donc Cyril Herpès.
Oui, alors vous voyez, on joue sur des mots, on parle de santé des écosystèmes avec Luc, qui connaît bien le fonctionnement des systèmes naturels, hein, des ressources en eau. Et là, je vais juste faire une petite nuance, c'est qu'on ne sait pas, nous, dans le domaine de la santé publique et des populations humaines, ce qu'est la santé d'un écosystème, puisque les équilibres qui sont connus par les experts de l'environnement ne sont pas ceux que l'on connaît, nous, dans l'organisme, dans le fonctionnement d'un organisme comme l'humain. Donc là, on va faire appel aux sciences médicales. Et la santé publique, ce n'est pas que du médical. C'est là ça que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas faire appel en dernière heure, dès qu'on a mal, aux soignants, aux médecins, même si on le fait souvent, parce qu'on voudrait aller sur une démarche de prévention. C'est-à-dire ne pas attendre que l'échéance soit là. Et le changement climatique, on nous l'annonce. Alors, je vais me faire une petite parenthèse, mais on nous l'annonce quand même depuis plus de 50 ans. Hein. Dans les rapports des années 70, déjà, il apparaissait comme un phénomène auquel il fallait se préparer. Aujourd'hui, on nous dit encore qu'on devrait, on devrait s'étonner. Mais non, il n'y a plus à s'étonner. Les faits sont là, les événements sont de plus en plus marquants, fréquents et intenses, climatiques, hein, j'entends, et on commence à mesurer les effets que ça a sur nos écosystèmes. C'est là où je rejoins ce que dit Luc. C'est-à-dire qu'on a un effet qui est sur les écosystèmes et qui va retentir sur notre santé. Parce qu'à terme, hein, c'est ça qui est en question, c'est les conditions de vie dans lesquelles on va se trouver. Pénurie d'eau, ressources en eau asséchées, qualité de l'eau aussi, c'est pas seulement quantité mais qualité, puisque manque d'oxygénation par exemple, et l'eau, hein, c'est quand même une ressource vitale. Hein. Si je vous laisse sans eau, ne serait-ce que quelques jours, vous aurez du mal à vous en remettre. Bon, donc ça conditionne notre qualité de vie, c'est même une condition pour la vie humaine. Et la santé va en pâtir dans toutes ses dimensions, pas seulement physiologique, de manque d'eau. C'est mental. Et on l'a vu, depuis maintenant, on parle d'éco-anxiété. Donc ça a aussi des répercussions sur la psychologie des populations, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça sont des dimensions de santé publique et pas seulement purement médicale qu'on abordera, j'espère, mercredi.
On a parlé un petit peu du coup des conséquences que cela pourrait avoir, des effets. Mais est-ce qu'il y a des types de populations, humaines ou non humaines donc, qui seraient plus concernées par ces dangers-là ?
Oui, bien sûr. C'est une des caractéristiques, je pense, de la crise climatique, qui est qu'elle ne touche pas tout le monde de la même manière. Alors, c'est vrai à différentes échelles. C'est vrai en France, hein, les populations les plus riches, qui sont responsables de près de la moitié des émissions de CO2, sont celles qui vont être les moins touchées. C'est celles qui ont la climatisation, c'est celles qui habitent à la campagne, qui peuvent partir en vacances, etc. Voilà. À l'inverse, les populations les plus pauvres, qui émettent beaucoup moins de CO2, eh ben, elles ne peuvent pas s'échapper de leurs appartements, elles ne peuvent pas avoir de piscine, etc. Donc, et elles vont être également beaucoup plus affectées parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens pour diversifier leur nourriture aussi. Donc voilà, c'est un peu le principe de toute façon des populations les plus pauvres, c'est qu'elles cumulent un certain nombre de handicaps sans avoir les possibilités d'y échapper. Et ce qui est vrai à l'échelle nationale est encore plus vrai à l'échelle mondiale. Les pays qui sont pratiquement pour rien, hein, même en cumulé depuis l'époque industrielle, les pays les plus pauvres, c'est 10% du CO2 qui a été émis, alors que les États-Unis, une partie de l'Europe, c'est plus de 50%. Et pourtant, c'est les pays les plus pauvres, l'Afrique subsaharienne, l'Inde, le Bangladesh, voilà, qui vont être les premiers concernés, et qui sont déjà les premiers concernés par les impacts du changement climatique, avec, on l'a vu par exemple, cette année, des inondations assez terrifiantes au Bangladesh, qui sera sans doute un des pays les premiers et les plus touchés par le changement climatique.
On a parlé un petit peu donc de ces dangers-là, et surtout pour les populations et les pays les plus pauvres, quelles sont les solutions qui peuvent exister pour ces pays-là, peut-être Cyril Harpet ?
Alors, je n'ai pas la solution en main, je le regrette, parce qu'il faudrait être plusieurs à se mettre autour des tables, deux tables, si tant est qu'on en ait suffisamment pour aborder tous les sujets. Alors, je vais approfondir ce que dit Luc, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des inégalités sociales aujourd'hui en France, de santé, d'accès aux soins et autres, et qui vont être amplifiées par ce qu'on évoquait des perturbations des écosystèmes. Certains auront moins la capacité, les moyens de pouvoir se protéger, anticiper et réduire, je veux dire, l'impact du changement climatique. C'est encore pire globalement, on est même sur des formes d'injustice environnementale. Moi j'ose employer le mot parce que les chercheurs maintenant dans la communauté s'entendent à dire qu'il y a une justice environnementale et des formes d'injustice environnementale. Et c'est vrai, c'est injuste parce que les plus lourds contributeurs d'émissions de façon historique sur les 150 dernières années sont des pays dits aujourd'hui développés et notamment des pays occidentaux qui payent peut-être le moins cher encore la facture des impacts du changement climatique que les pays du Sud. Et là, on pourrait être en droit de reconnaître aux pays du Sud, de leur, je dirais, de les libérer de la dette, ne serait-ce que ça, et même au-delà de ça, de les aider, de les accompagner. D'abord, à ne pas rentrer dans le même chemin que nous, technologiques, mais peut-être aussi de les aider à prévenir les futurs risques. Le Bangladesh est un exemple assez marquant, parce que c'est quand même une ville qui est hyper développée au sens urbanistique, qui est venue s'installer en bord de mer, de littoral. Malgré tout, c'est pas seulement la montée de l'eau, hein, c'est toujours du mythe de l'eau, c'est surtout qu'aussi l'infrastructure elle-même ne tient plus à l'eau, puisque les nappes vont elles-mêmes remonter, affleurer, et ça va provoquer aussi un phénomène d'assainissement grave, parce que les eaux se contaminent au contact de tous les polluants divers et variés. Il y a plus d'eau. En gros, il n'y a plus d'eau consommable et potable. Hein, donc, vous voyez, une double peine. Et je pense que ça, c'est une image assez marquante de l'injustice sociale et environnementale que l'on risque de voir apparaître de façon beaucoup plus élargie, puisque quand même, un tiers de la population mondiale vit sur les côtes, hein, sur les littoraux.
On a parlé donc de sécheresse, d'inondation, mais il y a un autre volet dont on n'a pas forcément parlé, c'est celui des pandémies et des maladies qui pourraient venir. Quelles sont-elles? D'où est-ce qu'elles viendraient? Et pourquoi le réchauffement climatique les ferait revenir pour certaines d'entre elles ou les aiderait à se développer?
Alors moi, je ne suis qu'anthropologue, je ne suis pas virologue, je ne suis pas microbiologiste, mais on sait qu'au fil de l'histoire, quand même, on a eu des épisodes antérieurs hein, qu'on a traversés sur des phénomènes épidémiques, notamment que ce soit la peste ou d'autres maladies. Alors moi, je vais vous rapporter l'expertise qu'apportent aujourd'hui certains scientifiques que je côtoie et avec lesquels on échange. Il se trouve que l'analyse qui est faite, c'est qu'on risque d'avoir un phénomène d'émergence de maladies infectieuses du fait de la réduction des espaces naturels dans lesquels cohabitent des espèces animales, végétales, et sur lesquelles on empiète. Alors, ça paraît étonnant, mais quel rapport avec les maladies? Bah si, parce qu'en fait, plus vous réduisez l'espace de ces espèces, plus elles vont tenter de coloniser d'autres habitats et de se rapprocher des populations humaines. Et la proximité de l'animal sauvage, qui est porteur notamment de certains micro-organismes, virus, bactéries et autres, eh bien, c'est pas seulement que le contact, c'est aussi la consommation d'animaux sauvages. Il y a une frénésie de consommation d'animaux sauvages en Asie, hein, faut le savoir. C'est même un luxe de se payer quelques espèces sauvages, entre guillemets, rares. Plus c'est sauvage, plus c'est bon, en fait. Je réduis, mais c'est un peu ça. Et donc, il y a des risques de transmission. Et au-delà de ça, il y a tout le phénomène de circulation des populations humaines. Vous voyez, je vous parle des migrations des populations humaines, on pense animales, pardon, qui vont chercher d'autres habitats, mais on pense aussi à tous les phénomènes de circulation humaine par voie de transport, marin, aérien, terrestre. Tout ça, ça contribue à accélérer, à accentuer cette propagation d'agents microbiologiques qui peuvent être des virus et des bactéries. Donc, on est aussi en train de, nous-mêmes, d'amplifier le phénomène. Nous sommes des amplificateurs, si vous voulez, de maladies infectieuses.
Et là encore, on retrouve la question de l'injustice avec les déplacements de population, ce qu'on appelle les migrants climatiques, qui sont déjà de l'ordre de plusieurs millions et dont on imagine facilement que le nombre va augmenter. Et là encore, la plupart du temps, les gens qui sont déplacés, ils vont dans les pays limitrophes. C'est pas le problème et pas la question du grand remplacement. C'est avant tout comment est-ce qu'on va pouvoir apporter du secours à des gens qui vont se retrouver dans des conditions extrêmement compliquées, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue sanitaire, et donc qui vont créer aussi des possibilités, des lieux d'infection, sachant que par ailleurs, la déstabilisation des écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui, par exemple, en France, va permettre de faire apparaître des maladies qu'on n'y connaissait pas encore jusqu'à maintenant, ou tout du moins qui avaient disparu, qui pourraient revenir.
Et comment on se prépare à ce genre d'événement? Comment est-ce que l'OMS, par exemple, peut se préparer face à ces pandémies-là? Est-ce que c'est une préparation au niveau international, à l'échelle nationale? Comment se préparer pour se protéger face à ces événements futurs?
Je vais essayer d'être concis, mais face à une mondialisation galopante depuis 50 ans, à peu près, puisqu'on pourrait remonter plus loin aussi, elle a pris un essor bien en amont, mais voilà, l'accélération de cette mondialisation fait que la circulation des hommes et des marchandises et des animaux, puisqu'on les transporte pour du commerce, quand c'est pas pour de la production industrielle, tout ça fait que ça accélère ces mouvements d'échange et donc de transmission d'agents, vecteurs, virus et autres. Bon, du coup, déjà, moi je vais le dire de façon un petit peu radicale, mais le Covid nous a fait prendre conscience du mouvement aberrant et effrayant dans lequel on était pris, puisqu'on a eu une interruption de plusieurs mois, on l'a vécu tous quasiment à différentes échelles, différents pays, d'une interruption brutale et nette des activités. Non seulement ça réduit, la facture carbone, puisqu'on a bien vu les émissions réduire, mais on a vu aussi revenir des espèces et des animaux et des espaces être à nouveau, non plus occupés par l'humain et sa technologie, mais par des espèces animales autres que l'humain. Et ça montre à quel point on est allé très très loin. C'est-à-dire c'est nous la première espèce, invasive, faut bien le reconnaître, non seulement en tant qu'espèce, mais avec toute la technologie dont on s'entoure. Il faut lire la BD de Jean Covici, elle est très bien faite pour ça. Il montre bien que dans le développement de l'humain et de son progrès, ça s'accompagne d'une technologie, d'une hyper-technologie qui envahit tout. Il le symbolise avec un super robot, un exosquelette. Bon, très bien. Ça, c'est une première chose. La seconde, moi, à laquelle je crois beaucoup, c'est qu'on est dans des concentrations humaines urbaine, mais faramineuse. Vous avez des villes de 30 millions d'habitants, 40 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, des mégalopoles. C'est énorme, c'est gigantesque. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, il n'y ait pas un risque émergent de transmission de maladies infectieuses? Voilà, ces regroupements hyper importants et hyper denses sont aussi des facteurs d'émergence.
Oui, je crois que les crises environnementales, elles nous questionnent vraiment très profondément. La technique ne nous sauvera pas. Ça, on peut le tirer dans tous les sens, c'est pas vrai. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à notre façon d'exister dans ce monde, un mode de vie moins globalisé, plus localisé. Et clairement, la réduction des inégalités, dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est une des questions clés. On l'a vu, la dernière COP, c'est la première fois qu'on a effectivement posé la question de la dette climatique. Et tant qu'on n'aura pas avancé dans ce que ça veut dire que réduire les inégalités à l'échelle mondiale, à une échelle plus locale, et donc repenser notre vivre ensemble, on n'arrivera pas à trouver des solutions.
Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange passionnant. On rappelle à tous les auditeurs qui voudraient en savoir plus qu'ils pourront aller à l'Espace des Sciences mercredi, écouter la suite de cette discussion.